RCF.
Bonjour. Je suis Thierry Lyonnais, grand reporter à RCF, et la marche est depuis des années l'activité que je préfère. Alors je suis allé tendre mon micro à des marcheurs, hommes, femmes, célèbres ou moins connus, qui eux aussi ont cette même passion pour la marche. Marche et rêve, un podcast pour tous ceux que l'envie de liberté démange. Gaëlle Delabrosse, vous êtes écrivaine, journaliste, conférencière, mais surtout une grande marcheuse. Et pour vous, la marche rime avec pèlerinage. Le Trobrez en Bretagne, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les chemins du Mont-Saint-Michel n'ont plus de secret pour vous. Au travers de vos nombreux ouvrages et de votre association, Chemin d'Étoiles, vous faites aimer et connaître ces chemins de pèlerinage. Alors Gaëlle Delabrosse, si vous remontez dans vos souvenirs, qu'est-ce qui vous a mis en marche initialement ?
Alors, on peut dire que j'y étais progressivement, comme quand on rentre dans l'eau, on met d'abord un doigt de pied, un orteil, et puis ensuite, on y va progressivement, et puis on est bien une fois dedans. Et moi, ça a été un peu pareil, en fait. Je suis née dans le Finistère, j'ai vécu toute mon enfance en pleine campagne, dans une grande forêt, en bordure de mer. Et donc, déjà, voilà, c'est là où je pense que j'ai contracté non pas encore le virus peut-être, mais en tout cas le grand attrait pour la marche, c'était à l'époque des balades, on va dire. Et ensuite, donc j'ai eu l'opportunité à l'adolescence de faire des pèlerinages de proximité vers les hauts lieux sacrés de Bretagne, donc Sainte-Anne-d'Auray, la Pointe Saint-Mathieu, Rocamadour, près de chez moi, rue Magol. Et ça a été donc un peu un deuxième stade, on va dire, dans mon initiation à la marche, c'est-à-dire marcher vers des hauts lieux qui ont marché vers, en fait. Et moi, je suis pas une randonneuse et j'ai du mal à marcher quand il n'y a pas de but. En fait, il me faut une carotte. Il faut une marche qui a du sens. Et donc, ça a été les premières marches qui ont donné du sens à cette progression.
Alors, justement, le fait de faire un pèlerinage, comme l'on dit, vous êtes une spécialiste des pèlerinages. Vous en avez pratiqué beaucoup, vécu beaucoup. Vous avez écrit beaucoup sur ces pèlerinages. C'est très différent de prendre un GR comme le GR20 pour traverser la Corse ou le GR5 pour traverser les Alpes, qui ne sont pas des pèlerinages, mais qui sont des chemins de grande randonnée, comme on dit.
Oui, alors je ne vais pas en faire une généralité parce qu'il y a des randonneurs sur les chemins de pèlerinage et ils ont tout à fait leur place et on peut devenir pèlerin en étant randonneur, etc. Mais personnellement, moi j'aurais du mal à faire des grandes marches, des longues marches au long cours. Je ne parle pas bien sûr des balades du dimanche, mais des marches au long cours parce que je trouve que la randonnée c'est assez difficile quand même. Enfin la marche ça demande un effort, ça demande parfois de persévérer, ça demande du courage et... Moi, je suis peut-être un peu paresseuse, mais effectivement, c'est comme dans la vie. Dans la vie, j'aurais du mal à travailler pour un métier qui n'a pas, pour moi, de sens particulier. En tout
cas, le pèlerinage, c'est ça. C'est un sens.
Le pèlerinage, c'est ça.
Ça vous donne un sens.
C'est-à-dire qu'on marche vers un but, et c'est ce but qui donne son sens au chemin. Pour moi, le chemin, sinon, n'aurait pas de sens.
Mais le randonneur peut avoir comme but d'arriver à Menton en partant du lac Léman ou d'arriver au bout de la Corse en partant du nord de la Corse.
Oui, voilà. C'est pour ça que j'en fais pas du tout une généralité. Je parle pour moi, en fait. Moi, il me faut marcher vers un haut lieu sacré. Il faut que ma marche puisse devenir aussi une méditation, une prière, pourquoi pas, parce que la marche, je pense, est une prière en soi. Ça nous met dans un état second. Et pour moi, en tout cas, il me faut ce but. Voilà. Encore une fois, je parle personnellement et je suis bien consciente qu'en montagne ou dans des lieux privilégiés comme en bord de mer, etc., on a aussi des marches des instants très privilégiés et des instants de conscience particuliers en marchant.
Alors Gaëlle Delabrosse, qu'est-ce que ces chemins de pèlerinage ont justement de particulier par rapport à ces GR qui ne sont pas des pèlerinages? Je pense bien sûr à Compostelle, mais ça peut être le chemin la Franciscana qui part sur Assise. Enfin bref, tous ces chemins de pèlerinage, qu'est-ce qu'ils ont de particulier selon vous?
En fait, je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'on redécouvre sur ces chemins. Alors bien sûr, sur les chemins de randonnée aussi, il y a l'amitié, la solidarité, etc. Sur les chemins de pèlerinage, c'est des valeurs qui sont peut-être spiritualisées. C'est-à-dire que L'hospitalité, par exemple, a un sens particulier. On accueille les gens qui sont sur les chemins de Saint-Jacques parce qu'ils sont pèlerins. Voilà. Ça donne tout un sens à la fois à celui qui accueille et à celui qui est accueilli. Voilà, il y a l'hospitalité redevient sacrée, en fait. Et c'est pareil pour d'autres valeurs, comme la solidarité. Voilà, alors, il y a une entraide, bien sûr, sur tous les chemins. Mais sur les chemins de pèlerinage, ça a un sens particulier parce qu'on sait qu'on va tous vers le même but, en fait. Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire que les pèlerins laissent tomber leur masque. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, sans clin d'œil. Mais c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire qu'ils sont sur un terrain commun. Ils se tutoient d'ailleurs tout de suite, en fait, sur le chemin.
Il y a moins de distinctions sociales.
Exactement, oui. Parce qu'on va vers le même but. On est tous pareils, on n'a plus de fonction particulière, on va vers le même but. Et je pense que c'est ça qui unit les pèlerins.
Ça simplifie de marcher en tant que pèlerin?
C'est plus qu'une simplification, c'est effectivement un dépouillement total, en fait. C'est vrai que, et peut-être que c'est ce qui, moi, me frappe le plus dans les chemins, c'est-à-dire que quand on part, d'abord, bien sûr, on part physiquement avec un sac très léger, mais on se dépouille totalement. Jean-Christophe Ruffin a cette expression, on fait le tri du sac à dos de l'existence. et c'est effectivement ça, et moi, ça m'a beaucoup, dans ma vie, ça m'a beaucoup apporté, c'est-à-dire que Je vis un peu comme sur le chemin, c'est-à-dire avec assez peu de choses. Chez moi, il y a pas de poster, il y a rien qui distrait, en fait. Il y a que des livres et des archives. Et tous les objets qui sont chez moi sont signifiants, en fait. C'est soit des objets que j'ai ramenés, des chemins de pèlerinage, etc. Parce que, effectivement, le pèlerinage recentre. Et on ne se distrait pas en pèlerinage. On va pas au cinéma, on va pas à la piscine, ou enfin bon, on peut y aller, mais enfin c'est pas le but principal. Et ça donne effectivement une colonne vertébrale à la vie.
J'aimerais bien que vous creusiez cette dimension de l'allègement. En quoi on s'allège? Parce que pour beaucoup de gens, quand ils voient des marcheurs passer, qu'ils soient pèlerins ou non, avec leur gros sac à dos sur le dos, ils se disent « Oh les pauvres, qu'est-ce qu'ils portent ?» Et vous nous parlez de l'allègement, du dépouillement. Comment se vit cet allègement?
Eh bien, il se vit d'abord matériellement, parce que c'est vrai qu'on apprend à vivre avec très peu de choses. Quand on va dans un supermarché, eh bien, on en ressort avec juste le pique-nique du midi. On fait pas de provisions. Voilà, on n'est pas des écureuils qui font des provisions pour l'hiver. On prend juste ce dont on a besoin. Ça aussi, c'est vraiment une leçon, à mon avis, pour la vie. Et puis, on s'allège aussi, eh bien, de toutes ces préoccupations, de tout ce qui peut encombrer la vie quotidienne, en fait. Dans la vie quotidienne, on n'arrête pas de courir après le temps, de courir après les urgences, etc. Et là, sur le chemin, eh bien, on n'a plus rien à penser, en fait. On a juste à savoir où on va, à essayer de trouver le bon chemin, et puis à avoir de quoi manger, et puis de quoi dormir. C'est juste l'essentiel, en fait.
Au niveau de l'allègement, il y a cette célèbre expression chez les pèlerins, c'est « le poids, c'est de la peur ».
Tout à fait.
Vous pouvez nous expliquer le sens de cette phrase?
Oui, en effet, c'est les « au cas où ». Et c'est vrai que souvent, notre sac à dos, il est rempli de « au cas où ». Et qu'on abandonne au fur et à mesure du chemin et on n'a plus de sécurité, en fait.
Donc je prends ce troisième pull au cas où.
Au cas où, voilà.
Je prends cette trousse énorme de médicaments au cas où.
Exactement.
Et on se dépouille peu à peu.
Voilà. Et donc sur le chemin, on apprend à faire confiance, en fait. Et moi, j'ai ressenti très proche de moi cette notion de providence. On apprend, on dit le chemin Camino Provide, en fait. C'est Céline Anaïa Gauthier qui dit ça, le chemin pourvoit. Et c'est vrai que du coup, on a juste à être dans cet état d'accueil et on est dépendant sur le chemin, mais on n'est pas dépendant de ce qu'on a décidé, en fait. On est dépendant des autres, parce qu'il faut bien que le soir, on soit accueilli, qu'on rencontre des personnes, ça fait partie du chemin. Mais on est surtout dépendant de la providence, en fait. C'est au bon vouloir de ce qui peut nous arriver, de la météo, etc. Et donc, on apprend à faire confiance.
Et la providence pourvoit.
Et la providence pourvoit.
Vous l'avez vraiment expérimenté?
Ah oui, tout à fait. Oui. C'est... Quand on est dans cet état, si vous voulez, tous les clins d'œil, tous les signes du chemin, eh bien, nous apparaissent avec beaucoup plus de pertinence et on
là,
les
vous
reconnaît.
Avez un souvenir, par exemple, à un moment, vous êtes dit, mais là, la providence vient m'aider, moi, pèlerine, sur ce chemin.
Alors ça peut se manifester, le plus clair c'est quand on a perdu sa route en fait. Moi je me rappelle la première fois qu'on a effectué le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la première fois c'était en 86, mais là c'est en 88 que ça s'est produit quand j'ai fait le Camino Frances. Il y avait à peine des balises, en fait. Le chemin était très, très, très mal connu et très méconnu à l'époque. Et du coup, on s'est perdu pendant une demi-journée dans une forêt. Et puis, venu de nulle part, eh ben, une personne qui a surgi et qui nous a expliqué... Alors que c'est toujours, en fait, surgi nulle part. Voilà. C'est toujours des choses qu'on n'attend pas et des choses qui arrivent par surprise. Et c'est ça qui donne aussi le piquant du voyage, en fait. Il y a toujours des surprises, des pépites qui surgissent comme ça.
Marche et rêve, un podcast sur les bienfaits de la marche et pour tous ceux que l'envie de liberté démange.
Gaëlle Delabrosse, pour vous, pèlerine, il est bon de partir seule ou de partir en groupe ?
Alors, il n'y a pas de règle générale. Et je l'explique dans le dernier livre que je viens de faire paraître, Éloge du pèlerinage, où je structure un peu ma pensée selon les pèlerinages que j'ai effectués. Les premiers étaient en groupe et avec bannière, avec cantique, avec chapelet, c'est-à-dire des pèlerinages classiques, en fait, où il y a un aspect communautaire et un aspect festif. Et ça, c'est une sorte de pèlerinage.
On le voit très bien en Bretagne, c'est le Trobraise, par exemple.
Exactement. Ouais. Enfin, le Trobraise de l'été, parce qu'il y a aussi le Trobraise que moi j'ai fait en individuel, qui est très différent pour le coup. C'est les pardons en Bretagne, parce que c'est des sortes de pèlerinage. Enfin, il y a une festivité. C'est la fête aussi, c'est la fraternité.
Généralement, ils sont plus courts aussi.
Ils sont plus courts dans le temps.
Là, je parle des longs pèlerinages pour partir à Jérusalem ou pour partir à Assise.
Oui. Donc, moi, ça a été mes premiers pèlerinages qui m'ont initié. Ou marcher vers Chartres pendant 3 jours. Ça a quelque chose de très enthousiasmant aussi et de très motivant qui renforce sûrement la foi. Mais je suis très vite, moi, arrivée à des pèlerinages solitaires ou en petits groupes ou avec des amis qui sont du coup beaucoup plus intériorisés et qui nous permettent en effet... c'est tout autre chose en fait qui nous permettent à la fois de penser, parce que c'est vrai que les philosophes l'ont montré, la marche permet à la pensée de reprendre un déroulement logique.
Et si vous êtes déjà à deux, vous êtes un groupe, vous êtes dans la conversation par exemple, alors que seul, on n'est pas dérangé.
Il y a les deux types de marcheurs.
Il y a ceux qui veulent absolument marcher seuls.
C'est ça. Oui.
Et ceux qui disent c'est quand même très beau de vivre une expérience à plusieurs.
Voilà. Alors après, quand on marche à deux, l'idée c'est de pas marcher tout le temps, bien sûr, à deux, et de pas bavarder tout le temps, etc. C'est souvent ce qui se passe. Et chacun marche selon son rythme. Et marcher à deux, il y a quand même cet aspect du partage, parce que souvent quand on marche seul et qu'on vit des instants privilégiés, qu'on a des flashs et qu'on aime bien les partager en fait sur le coup, parce que après l'instant s'en va, et donc on aime bien un merveilleux paysage, on aime bien le partager, un moment d'hospitalité merveilleuse, on aime bien que ça soit vécu à plusieurs. Mais il y a les deux aspects, et puis on peut, je pense, marcher aussi seul tout en étant à plusieurs.
Vous avez écrit un jour, Gaëlle Delabrosse, la marche redonne de la valeur à l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est une question difficile, parce que je pense que la vie, pour moi, a un sens. Enfin, je supprimerai d'ailleurs le « pour moi ». La vie a un sens. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Mais ça n'est pas sur le chemin, en fait. On découvre que la vie a un sens. On lui donne pas... C'est pas ça qui donne un sens à la vie, en fait. C'est pas le chemin qui donne un sens au but. C'est parce qu'il y a un but qu'il y a un chemin. Et donc la vie a un sens et on le découvre en vivant, on le découvre en marchant. Et moi, c'est en effet ces marches vers des hauts lieux sacrés qui m'ont fait découvrir profondément et non pas de manière
intellectuelle, purement intellectuelle,
Voilà, le sens de la vie en fait. Et ça m'a fait découvrir aussi que les étapes qui se succèdent en fait donnent un sens au chemin. C'est parce qu'il y a des étapes qui se succèdent qu'on arrive au but. Et c'est parce qu'il y a un but qu'on arrive à traverser les épreuves. Et il y a une transposition évidente dans la vie. C'est effectivement parce que il y a des joies, parce qu'on sait aussi que l'on va vers un but, parce qu'on croit en la vie, une certaine vie après la mort, qu'on avance, parce que sinon on pourrait être complètement désespéré. Enfin, en tout cas, moi qui ai un tempérament assez entier et assez extrême, c'est une philosophie en tout cas qui me parle beaucoup.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on se sent plus exister quand on marche?
Oui, et là, très très récemment, il y a une personne qui m'a rapporté cette phrase, une pèlerine qui était sur le chemin et qui me dit « je ne me suis jamais sentie aussi vivante ». Et c'est vrai que je pense que sinon, on vit et sur le chemin, on existe. On se sent vraiment, les pas sont un peu les battements du cœur. Et donc, on a une profondeur, en fait, de vie. Alors, moi, j'ai testé la marche de pleine conscience. Et c'est vrai que je donne beaucoup de conscience sans y mettre forcément une pratique particulière. Mais on est conscient, en fait, de chaque instant sur le chemin.
Donc, ça veut dire une invitation à être vraiment présent.
Présent,
à
tout à fait. Présent à l'instant.
À l'instant où l'on pose le pied par terre.
Exactement. Alors c'est que ça. Dans la vie courante, on est présent à rien du tout. Ouais. On est dans son travail et puis on sait qu'après, juste après, il faut vite faire la cuisine pour partir à un rendez-vous, etc. On est toujours dans l'après, tandis que dans le cheminement, on est dans le présent. On est dans le pas qui se pose par terre et dans le pas suivant qui va nous faire avancer et qui va nous faire arriver à l'étape du soir.
Miguel Delabrosse, en quoi la marche, et notamment la marche en tant que pèlerin, est une pratique spirituelle?
Alors,
parce que pour beaucoup de gens, marcher, c'est un acte absolument naturel et il n'y a rien de spirituel derrière. C'est simplement, voire même une activité purement physique. Pour vous, on le sent bien dans tous vos écrits, dans tout ce que vous dites, c'est une pratique spirituelle. En quoi?
Oui, parce que la marche nous met, je pense, dans une sorte d'état de grâce. Mais il faut commencer par la terre, c'est-à-dire et par le corps. En fait, tout ça passe au début par une pratique corporelle et une pratique matérielle. C'est-à-dire
et parfois de la souffrance.
Et parfois de la souffrance, oui.
C'est pas un état de grâce au début, au pied.
Exactement, oui. Et moi, je l'ai expérimenté souvent. Par exemple, juste avant de partir faire le Trobraise, j'étais allongée sur le lit et j'avais un terrible mal de dos. On avait fait des infiltrations qui n'y avaient rien fait. J'ai un pincement discal terrible. Et dans une heure, je devais être à Saint-Paul-de-Léon pour partir faire le tour de Bretagne à pied pendant un mois avec des vieux amis d'enfance. Avec deux enfants de 5 et 6 ans, qui étaient les enfants d'un ami, avec une carriole, avec deux ânes. Enfin, c'était quand même une expédition. Et il faut savoir faire confiance à ce moment-là et partir. Et pour revenir à la question du corps, eh bien, tout de suite en marchant, eh bien, peu à peu, j'ai senti que le corps, je redescendais dans mon corps. Et le corps reprenait ses droits. Et quand on marche, eh bien, on se remuscle. Il y a toute cette technique corporelle qui est bien connue, c'est-à-dire qu'on libère les toxines qu'on a accumulées. Les endorphines, en revanche, qui sont les hormones du bonheur, eh bien, nous mettent dans un état, enfin pas second, mais quand même, un état différent de celui d'une certaine... Voilà. Et donc, il y a un état de grâce qui est naturel au début, en fait. Et donc, c'est la première période qui nous permet ensuite eh bien, d'arriver à ce second niveau, si on peut dire. Enfin, ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas des étapes qui sont bien déterminées, mais... En tout cas, on peut faire de sa marche, alors je disais tout à l'heure, une prière, en tout cas une méditation. Et c'est vrai qu'il y a déjà ce rythme de la marche qui est un peu comme le rythme du chapelet ou le rythme du mantra dans une autre civilisation, qui fait qu'on s'extrait en fait de la pensée, pour le coup. On n'est plus dans la pensée, mais on est dans la méditation. On est dans un autre... On ne pense pas avec des mots, mais on est dans un certain état. Et ça, je pense qu'il faut avoir marché pour comprendre en fait ce que ça veut dire.
Pourtant, quand on marche, on n'a plus toutes ces sollicitations extérieures. Et là, le mental est en route, en permanence. Où est-ce qu'on s'arrête de penser quand on marche?
Alors, la pensée est très différente, en fait. On n'a pas ce petit hamster qui tourne dans sa roue tout le temps, en fait, hein, et qui nous dit « on a telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire », ça, on n'a plus. Donc les pensées, comme on disait, les préoccupations sont beaucoup plus basiques à la limite, mais ça libère justement l'espace du disque dur de la pensée pour penser aux sujets les plus essentiels de la vie. Et je pense qu'on et avec les personnes qu'on rencontre, c'est aussi ces sujets-là qu'on aborde. L'amour, la vie, la mort, la fraternité, la justice, la paix. Voilà, ce sont toujours des questions qui reviennent, même si elles sont incarnées, mais dans les discussions qu'on a, on revient à l'essentiel en fait.
Vous voulez dire que entre marcheurs, marcheurs pèlerins, les conversations sont plus profondes, vont plus à l'essentiel
oui.
que dans la vie quotidienne.
Oui, certainement. Oui. Même si on parle d'anecdotes, les anecdotes sont signifiantes en fait. Hein. On sait qu'on se voit très peu sur le chemin, surtout les personnes chez qui on dort le soir. On sait que le lendemain matin, on est parti. Et c'est la raison aussi pour laquelle on fait des confidences, beaucoup plus qu'aux personnes qu'on connaît, à la limite, à nos proches. Et parce qu'on sait qu'on les reverra plus, donc il n'y a pas d'engagement. Et ça, tous les pèlerins le vivent.
Marcher rêve, un podcast RCF proposé par Thierry Lyonnais.
Gaëlle Delabrosse, marcher, c'est souvent s'immerger dans la nature. Alors, pas toujours, parfois on traverse des villes pas très attirantes, mais quand même assez souvent, les chemins de pèlerinage ou les chemins de randonnée passent à travers la nature. Quel rôle joue la nature sur le marcheur ?
Déjà, la nature nous aide à nous émerveiller, en fait. Elle laisse, on a dit que la pensée avait laissé un peu cet espace en nous, la pensée rationnelle en tout cas. Et donc, il y a de la place pour autre chose. Et cette autre chose, eh bien, c'est l'émerveillement devant, alors si on est croyant, devant la création. Cette nature à laquelle on ne prête pas forcément toujours attention par ailleurs, et c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre de la nature, notamment des rythmes de la nature, hein, des saisons, etc. Quand on voit une fleur, quand on voit il y a toute une progression dans le fait que la fleur elle avance son âge et elle avance aussi. Eh bien, tout ça, c'est des choses qui nous apparaissent évidentes en fait.
L'un des bénéfices de la marche, c'est une capacité d'émerveillement plus grande.
Oui, je pense que c'est l'un des facteurs qui fait qu'on est dans un autre état en effet en marchant.
Gaëlle Delabrosse, beaucoup de gens qui n'ont pas l'expérience de la marche, de la randonnée ou du pèlerinage ont peur. Peur de se perdre, peur de ne pas y arriver, peur d'être trop fatigué. Comment faire pour se libérer de toutes ces peurs qui nous empêchent de partir ?
Alors, je ne sais pas si c'est une décision rationnelle, mais en tout cas, il faut avancer. Voilà, je pense que Basho disait que ce poète japonais disait qu'il ne fallait pas rester 2 jours au même endroit, dormir 2 jours dans la même auberge. La peur peut paralyser, en fait. Hein. On peut effectivement, à certains moments, ou même donner envie de rebrousser chemin et de repartir chez soi. Et c'est dans ces cas-là qu'il faut justement aller de l'avant. Et si on a peur pareil dans la vie, hein, si on a peur de l'avenir, eh bien c'est là qu'il faut, au contraire, avancer, voilà, avec confiance. Hein. Je reprends ce mot de la confiance, qui est vraiment, à mon avis, capital. Il faut faire confiance à ce qu'on a choisi, en fait. Il faut faire confiance aussi à la décision qu'on a prise.
Gaëlle Delabrosse, ça fait plusieurs fois que vous mettez en parallèle la marche et l'existence. Il y a vraiment un parallèle entre les deux. Enfin, vous faites un parallèle entre les deux.
Oui, pour moi, c'est effectivement l'un des meilleurs bénéfices de la marche, en tout cas, qui sur moi, ça a été de me rendre compte que la marche était une métaphore de la vie et de l'existence. Et c'est vrai que même dans la vie quotidienne et dans les douleurs, enfin moi j'ai traversé une maladie assez importante, et si j'avais pas eu cette philosophie du chemin, je sais pas si j'aurais réussi à aller de l'avant avec courage, à affronter en fait cette épreuve, et en se disant que effectivement c'était la providence qui mettait cette épreuve, ou du moins qui la permettait. Et c'est comme sur le chemin, voilà, les épreuves on les dépasse parce qu'on sait que après eh bien, on voit un horizon, en fait. Et la vie, c'est pareil, il y a un horizon à la vie.
Par exemple, là, sur cet exemple très concret, en quoi la marche a participé à votre chemin de guérison ?
Parce qu'en fait, on ne vit pas l'épreuve en tant que telle. On vit l'épreuve en tant qu'épreuve à dépasser. Comme une montagne, en fait, sur le chemin. On ne gravit pas la montagne en tant que telle parce qu'on ne fait pas de l'alpinisme. C'est différent, c'est un autre but. Mais on la gravit parce que de l'autre côté, on doit descendre dans la vallée. Et que c'est une. La montagne est mise sur notre chemin et on doit la. Pareil pour le désert. Hein, c'est parfois difficile. Les pèlerins de Saint-Jacques connaissent la Meseta, cette traversée du désert qui est parfois éprouvante, qui il fait chaud, on doit marcher sur du goudron, ou en tout cas, il y a des voitures à côté. Eh bien, on traverse ces épreuves parce qu'ensuite, on sait qu'on va retrouver des conditions meilleures de marche. Et dans la vie, c'est pareil. Et les épreuves nous renforcent. Traverser une montagne, c'est pas anodin. On renforce nos muscles, on renforce notre volonté d'arriver. Dans la vie, c'est pareil. Les épreuves, et ça, toutes les personnes qui ont traversé des épreuves, qu'elles soient deuil ou autre souffrance, eh bien, ça renforce, en fait. Hein.
On peut dire que la marche, c'est une école de sagesse ?
Oui, je pense que c'est une école de sagesse, une école d'humilité aussi, hein, parce que on est dépendant, c'est pas nous, on peut pas marcher, on peut pas marcher avec son ego, en fait, hein, il n'y a pas d'orgueil dans la marche, on décide de mettre un pied devant l'autre, mais ensuite, c'est à la grâce du chemin. Et je pense qu'en effet, la marche est une école de sagesse, on y retrouve, c'est un conservatoire de valeurs en fait. On y retrouve toutes les valeurs oubliées, que ce soit le courage, l'hospitalité, l'humilité, la solidarité, la fraternité, la paix, la justice, tout ça est présent dans le chemin.
Et si je voulais paraphraser Descartes, je vous dis « je marche donc je suis », ça vous parle ?
Oui.
Plutôt alors, que « je pense donc je suis ».
Exactement, oui, je marche comme je suis.
Et
Donc je suis, exactement, voilà, oui, tout à fait.
Finalement, Gaëlle Delabrosse, qu'est-ce que vous avez retiré de plus précieux pour vous dans votre vie, dans toutes ces expériences de marche, de pèlerinage que vous avez vécues ?
Je pense l'espérance, en fait. Parce que quand on marche, on voit un horizon. Alors, j'ai aussi vécu une très belle expérience de marche en pleine nuit, de marche à la belle étoile, en fait. Hein. Et il y a cette étoile qui nous guide. Et on sent qu'on n'est pas seul. Et donc, je pense que cette espérance, vous vous souvenez de ce poème merveilleux de Charles Péguy, voilà, la foi, l'espérance et la charité. Et puis, c'est l'espérance qui marche en tête. Et parfois, la foi et la charité, eh bien, il faut les tirer. Et ils restent un peu en arrière. Et donc, je pense qu'il y a cette lumière, en fait. Hein, parce que l'espérance, moi, je la vois comme une lumière qui est en nous quand on marche. Parce que là encore, on a une marche orientée. Et dans la vie, c'est pareil, en fait. Et moi, c'est cette espérance d'une autre vie qui me fait marcher. Vous savez, il y a ce moment très particulier quand on arrive à la dernière étape et quand on voit le lieu où on arrive. Il y a à la fois la volonté d'y arriver parce qu'on est enfin arrivé au but après avoir marché un mois, deux mois. Mais il y a en même temps une nostalgie parce qu'on sait que le voyage s'arrête. Eh bien, je pense que dans la vie, ça doit être pareil. Enfin, je ne suis pas encore à cet état ultime. Mais on marche vers un but. Et puis, quand on voit le but de plus en plus arriver, eh ben, d'un côté, on est heureux parce qu'on sait que la vie qui nous attend après, eh bien, c'est une vie qui est optimisée pour le moins, en tout cas, une vie éternelle pour ceux qui y croient. Et en même temps, eh bien, tous ces moments merveilleux que l'on vit avec les autres et aussi en soi, enfin, tous ces moments privilégiés, eh bien, sont terminés et on bascule vers quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça sur le chemin. Il y a tout ça à l'arrivée aussi, parce que le moment de l'arrivée est quelque chose de très, très particulier.
Je comprends mieux pourquoi votre collection s'appelle « Le chemin de l'étoile ».
Chemin d'étoile, au pluriel, pour montrer effectivement qu'il n'y a pas qu'un chemin et qu'il n'y a pas qu'une étoile, que chacun a son chemin et que chacun a sa bonne étoile aussi. Hein. Et comme dit le petit prince de Saint-Exupéry, effectivement, peut-être que chacun marche pour retrouver ou chacun vit pour trouver sa bonne étoile.
Merci beaucoup, Gaëlle Delabrosse.
Merci à vous.
Vous venez d'écouter Marche et rêve, un podcast produit par RCF. Pour découvrir d'autres parcours de marcheurs, rendez-vous le mardi à 8h sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts que je vous recommande, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre, La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps, même en marchant. Bonne écoute et à très bientôt au détour d'un sentier ou sur les ondes.